Et nous sommes de retour, toujours pour parler de la série Bravely. Et attention, là on va parler des choses intéressantes. Les théories. Et il y en a beaucoup. Alors, on va pas pouvoir parler de toutes les théories, bien entendu. Par contre, on va quand même bien discuter. Et ça risque d'être beaucoup plus long que la simple présentation. Mais comprenez bien que c'est une partie extrêmement intéressante et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, eh bien, je vais laisser Asriel vous parler de la première théorie que nous avons choisie.
Alors, la première théorie, elle part en fait des éléments scénaristiques les plus évidents que nous avons à notre disposition, à savoir les trois reliques qui structurent la licence des Bravely depuis qu'elle existe. Ces trois reliques sont le pendentif d'Agnès, le sablier de Deneb et l'épée des Braves qui est beaucoup évoquée dans la quête annexe du Yokai de Bravely Seconde. Ces trois reliques, comme je l'ai dit, elles structurent les deux jeux et on espère le troisième jeu. Et elles sont présentées en filigrane depuis la réédition du jeu Bravely, parce qu'à l'origine, vous saviez qu'il y a la version Force Sequel qui a été édité en 2013 par Square Enix, parce qu'avant, il y avait une première version du jeu qui ne contenait ni les balles, ni les dialogues supplémentaires du groupe. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont intégré le rôle de ces trois reliques. On évoquait au début le fait que les jeux se commençaient et se finissaient sur Tease. C'est là que le rôle du sablier est extrêmement important, puisque c'est grâce au sablier des espoirs portés par les espoirs du monde, il me semble, que Tease peut survivre à la fin de Bravely Seconde, puisqu'il était habité au départ par l'âme du joueur, puis par l'âme d'Altaïr. Le pendentif possédé par Agnès nous permet de communiquer à travers l'espace, le sablier à travers le temps. Reste le rôle de l'épée des Braves qui devrait constituer le prochain jeu Bravely si jamais Square Enix se décide à le faire. Et d'ailleurs, le mot sword en anglais est un homonyme japonais qui signifie 3, de ce que j'avais à ma connaissance. Donc, on a là une preuve supplémentaire que ce jeu est structuré autour de ces reliques. Voilà, alors, cette théorie, elle ouvre beaucoup, beaucoup d'imagination quant au reste, et c'est à partir de ce point de départ qu'on va réussir à développer le reste. Mes chers amis, qu'en pensez-vous ?
Alors, je vais rectifier légèrement par rapport à Sword. En fait, c'est tout simplement que quand les Japonais prononcent third, ils disent c'est sad, donc ça rappelle aussi la façon dont ils disent sodo, donc pour la sword. Et c'est justement sur ce jeu de mots que j'espère va se baser Bravely Third. Vu notamment la scène tout à la fin de Bravely Second où il parle de l'épée des Braves, mettez-les-vous en japonais, c'est d'autant plus flagrant. Par rapport aux reliques, justement en fait, ça recoupe un peu ce que je disais dans la présentation des jeux par rapport à Bravely Default est centré sur l'espace. Et il y a beaucoup, le pendentif est pas mal utilisé dedans. Et Bravely Second est basé sur le temps, et donc là c'est beaucoup plus le sablier. Vu que finalement, dans Bravely Default, le sablier est beaucoup plus une mécanique de gameplay qu'un élément central du scénario, alors que dans Bravely Second, il est un peu plus au centre.
Si je peux faire une remarque, les deux sabliers et pendentifs sont deux éléments de gameplay à part entière dans les deux jeux, et ils nous servent beaucoup. Le sablier pour Bravely Second, évidemment, dans les combats, mais aussi le pendentif pour communiquer avec Agnès dans Bravely Second, dans le menu de présentation des personnages. Et voilà.
Oui, de toute façon, ce que tu disais, c'est que les reliques ont été beaucoup plus mises en avant avec la version Force of Sequel. Et forcément, ce qui fait que dans Bravely Second, ils se sont dit on va peut-être un peu plus les intégrer au scénario. Ce qui est le cas. Vu que le pendentif est un peu plus est intégré dans le scénario en tant que bah, en tant que téléphone, hein, on va le dire. Et bon, bah, le sablier, hein, c'est sans le sablier, il y aurait rien eu du tout. Ça, clairement. Et donc, Leaf, toi, qu'est-ce que tu penses de ces trois magnifiques reliques?
Eh bien, ces reliques, bah oui, ça se tient. je suis d'accord avec ça. Bah oui, c'est-à-dire qu'au-delà d'éléments de gameplay, en effet, ça structure plus ou moins les jeux. Le sablier, de toute façon, fait complètement référence à Bravely Second, étant donné que c'est le nom carrément de... C'est le nom de la commande qui permet de l'utiliser. Après, moi, j'assimilerais plus le pendentif à Bravely Diff... Ah, ouais. C'est vrai que ça se discute. Le pendentif, ça remplace finalement le... Ça remplace Eri dans Bravely Second, c'est-à-dire que c'est l'élément dead, c'est l'élément avec lequel on peut interagir dans le menu. Après, dans Bravely Default, ce pendentif à la base, c'est un peu ce qui... c'est un peu tout ce qui reste à Agnès, en fait. C'est-à-dire que Agnès se retrouve avec, en partie, rien. On peut dire ce qu'il y a. Hein. Elle perd un peu tout, je veux dire. Elle est obligée de partir en voyage de manière brutale. Elle a plus vraiment d'amis. Enfin, elle va retrouver Olivia, mais qui va mourir de manière assez brutale. Et Agnès, à ce moment-là, n'a plus rien. Et le pendentif, c'est un peu son seul repère, en fait. Avec Eric, qui va la guider, mais la manipuler, c'est la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher. Donc ça... Il y a une grosse importance à ce niveau-là dans Bravely Default. Et ce pendentif, finalement, bah, il va se transformer un peu en élément de gameplay dans Bravely Second après.
Bien sûr, mais dans Bravely Default aussi, j'aimerais rappeler que le pendentif sert à communiquer entre les mondes, et dans le combat final contre Ouroboros, c'est grâce au pendentif qu'on arrive à communiquer avec toutes les autres Agnès des mondes parallèles pour vaincre Ouroboros et tarir la source de son pouvoir infini. C'est là qu'il a sa plus grande utilité.
À ce niveau-là, ouais, c'est vrai qu'il est... C'est d'ailleurs intéressant, enfin, que ce soit au niveau de ça ou de pas mal d'autres choses, de voir que quasiment tous les éléments de gameplay en fait de Bravely sont expliqués dans le scénario. Typiquement, par exemple, le fait de pouvoir faire appel à d'autres joueurs, c'est expliqué par le pendentif. Et ça, je trouve ça bien, c'est un bon travail à la base de se dire, bah, tout le gameplay va être justifié. Et ça contribue ça un peu à cette rupture du quatrième mur, un peu, dans le sens où tout a une explication, en fait. Le moindre élément de gameplay va avoir une explication cohérente et logique. On n'a pas d'éléments qui viennent là de manière complètement magique. Et ces reliques, elles contribuent toutes à ça, en fait. Donc, à voir après quel élément de gameplay, on va dire, va être justifié par l'épée des Braves. Puisque si on a un troisième Bravely, ce serait logique de voir l'épée s'intégrer au gameplay et avoir vraiment sa place et une utilité à ce niveau-là.
Tout à fait d'accord. Et pour terminer sur le pendentif, au début de Bravely Second, je rappelle que le Kaiser Oblivion, sur demande de la fée Anne, détruit le pendentif d'Agnès, et c'est avec les morceaux brisés du pendentif que Yu arrive à communiquer avec Agnès, parce qu'elle en a gardé un aussi. Voilà.
C'est vrai.
C'est une précision importante, je pense.
Oui, c'est effectivement une précision assez importante. Et bah, du coup, je vais rebondir un peu sur ces trois artefacts pour parler du troisième, l'épée des Braves. Alors, l'épée des Braves, de ce qui est dit de l'épée des Braves dans Bravely Second, c'est un démon. C'est vraiment une entité malveillante qui corrompt la personne qui la manipule, donc en lui prenant ce qui est le plus cher à ses yeux, alors de façon très métaphorique, hein, c'est sûr que quand Yu prend l'épée des Braves, ça va prendre le bras droit de son grand frère, parce qu'il considérait que son grand frère était un idéal de chevalerie et patati patata, et que c'était le meilleur combattant possible. Bref, ça apprend de façon très métaphorique et surtout ça fait très mal. Mais c'est pour faire écho au fait que le monde de Bravely, donc les monstres, sont éminemment remplis de corruption. Vraiment, c'est, il y a des antagonistes qui sont des quartiers de pommes. Il y a des antagonistes, notamment les sorcières, quand on s'intéresse aux aux éléments du journal donc, qui décrivent la sorcière, ce sont des personnes qui se sont laissées avoir par des démons mineurs qui sont leur chapeau, qui ont été avides de pouvoir et qui maintenant sont, sont devenues des personnes complètement sadiques, mais en même temps complètement soumises à la volonté de leur chapeau. Donc il y a un espèce, il y a quand même un petit côté malsain dans le dans les monstres et ça pour moi ça ça fait un peu miroir avec les PD braves et ce côté déception qu'il peut y avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
bah, de manière générale en fait que déception avec beaucoup d'émotions. De toute façon, Gravity Falls est extrêmement axé sur les émotions. Alors après, on parlera effectivement plus tard de Yoko et du fait qu'elle contienne des péchés. Mais de manière générale, c'est vrai que le jeu il est complètement régi par, par les émotions négatives. Que ce soit par exemple les balles qui sont envoyées par les émotions et les souvenirs. Ou finalement, beaucoup d'autres choses. C'est, ces artefacts, c'est axé là-dessus. Mais un peu comme tout l'univers, en fait. Tout l'univers Bravely, c'est vraiment... ouais, c'est centré autour de ça, en fait. Donc ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec, avec ce que t'as dit.
Et donc, Sriel ?
Rien à rajouter sur ce sujet. Pour moi, c'est bon.
Très bien. Alors, avant de, d'embrayer sur ce que pourrait impliquer... la scène de fin de Bravely Second et donc potentiellement, potentiellement Bravely Third quand, on, quand il verra. C'est, ça peut être, y a un lien qui peut être fait avec, avec les paroles de la matriarche de Florem dans la fin du chapitre 4 de Bravely Second quand le temps est arrêté. Et donc je vais laisser Asriel nous faire la, la citation de ces paroles.
Donc cette citation se passe au chapitre 4, juste après que la lune ait été détruite. Elle se passe à Florem, dans la maison de la matriarche, et il y a deux citations, celle de Sylvie d'une part et celle de la matriarche d'autre part. On commence par celle de la matriarche. Sylvie voudrait que je dise ceci, aidait Ali. Il sera bientôt temps pour toi de prendre une décision, même si elle peut te sembler difficile. Tu devras le dire à tes amis, puis mentir au monde entier, le tromper et devenir un tyran, tant par tes actes que tes paroles. Laisse les autres t'attaquer et te blâmer. Pars à la recherche des amis que tu as perdus. Il est temps de remonter dans ce vaisseau scintillant et de repartir vers les nuages. Quant à ce monde au milieu des cieux, j'ai bien peur de ne rien savoir à ce sujet. Et Sylvie, qui peut être interrogée à côté, dit quant à elle, Mademoiselle Edéa, vous connaîtrez tant de larmes et tant de cris à partir de ce jour, tout ce mal, tout ce sang, et pourtant, oui, pourtant, le grand navire s'élancera de nouveau à l'assaut des cieux vers le monde céleste ou Dame Agnès. Et là, la phrase n'est pas continuée.
Alors, c'est assez... critique, on pourrait dire, et ça peut faire référence à deux choses, soit, soit à la suite, tout simplement, mais il y a une autre chose à laquelle ça peut faire référence, et j'appelle à la rescousse les quêtes annexes, et notamment un élément, donc quand on va faire la quête, de, la quête du Templier, la quête de Braev, et... si donc dans cette quête on doit aller récupérer l'épée du maréchal et le bouclier du maréchal et si on se présente avec Idéa qui a équipé l'épée du maréchal et le bouclier du maréchal bah le combat se déclenche tout de suite mais là où c'est intéressant c'est si l'épée et le bouclier ne sont pas équipés. Puisque si l'épée et le bouclier ne sont pas équipés, Braev demande à Idéa pourquoi elle ne les a pas équipés. Et Idéa répond alors que, alors on a, malheureusement pour une fois on n'a pas la citation exacte, mais Idéa répond que c'est cette épée et ce bouclier, si elle les a cherchés, c'est autant bien donc pour avoir la force de pourfendre ses ennemis et en même temps de pouvoir défendre son peuple, mais ce pouvoir lui fait peur. Ce pouvoir lui fait peur, et donc potentiellement qu'elle ne voudrait pas devenir devenir un tyran parce que elle ne voudrait pas devenir un tyran par abus de pouvoir, tout simplement. Et donc ça pourrait faire référence aux paroles de la matriarche. Mais encore une fois, comme pour beaucoup de théories, on n'en sait rien. Ce ne sont que des théories. Et donc ça c'était le ça c'était un truc. Et ensuite vient la fin de Bravely Second avec la quête que Ringabel va avoir, donc de retrouver l'épée des Braves, vu qu'à la fin on entend clairement sa voix qui dit que l'épée des Braves a été retrouvée. Or, il est assez difficile d'imaginer Ringabel sans Idea et Idea sans Ringabel. Alors, c'est un peu l'un des trois couples de la série, les deux autres étant Hugh et Magnolia et Tiz et Agnès. Et ce qui fait que Idea, malgré ses responsabilités, va peut-être vouloir retrouver Ringabel. Et ce qui fait que c'est vu que c'est un. Ah, ça fait référence à toutes les émotions qu'Idea peut avoir et le fait qu'elle peut aller quand même. Elle peut utiliser des moyens un peu drastiques de temps en temps. Donc ça, les paroles de la matriarche peuvent être par rapport à ça. Et ça nous amène donc au personnage de Yoko. Vu que c'est grâce au personnage de Yoko qu'on peut justement voir se renouer la relation entre Ringabel et Idea. Et voilà. Donc du coup, je vais laisser Leaf cette fois nous présenter le personnage de Yoko.
Alors juste avant de parler de Yoko, je voudrais rajouter un petit truc quand même concernant Idea. Faut savoir que au niveau de Bravely Second, ce qui fait le personnage d'EDA, en fait, c'est le concept du choix. Toute l'histoire, quasiment, d'EDA dans Bravely Second repose sur des choix. Il y a 8 quêtes secondaires, si je dis pas de bêtises, au niveau des classes de Bravely Default. Et c'est EDA qui, systématiquement, va prendre le choix, va être soumise à un choix. Enfin, en gros, le groupe va être soumis à un choix. Le groupe va être soumis à un choix, mais c'est systématiquement EDA qui va le prendre. Alors en vérité, c'est le joueur qui prend la décision, mais c'est EDA qui, scénaristiquement parlant, va le prendre. Et ça, c'est intéressant, parce que Bravely Second, c'est un peu comme une sorte de test et de préparation pour EDA. Donc c'est assez cohérent, en fait, ce discours de la matriarche, même si on peut avoir pas mal de théories dessus. Dans le sens où EDA a été préparé à faire des choix pendant absolument tout l'épisode. D'ailleurs, à la fin, le choix que lui soumet Brave, c'est un peu une sorte de test final avant de lui dire « Tiens, maintenant, tu peux diriger le royaume d'Eternia. » Mais c'est vraiment toute son épreuve. En fait, toute l'épreuve d'EDA pour ce jeu, c'est ça. C'est de savoir prendre une position. Et c'est que des choix quasiment difficiles, puisqu'elle n'a pas, dans les quêtes annexes, en fait, on n'a pas de bon choix ou de mauvais choix. On a un choix qui est assumé, et qui débouche sur une suite. D'ailleurs, quel que soit le choix pour lequel on va opter, la fin sera toujours bonne. Et c'est d'ailleurs une leçon intéressante, puisque comme on peut refaire le jeu, enfin refaire les quêtes annexes à partir du chapitre 5, on se rend compte que quel que soit le choix qu'on prend, la fin peut être bonne si on assume ce choix jusqu'au bout. Et ça, c'est une leçon tant pour le joueur que pour EDA. C'est vraiment tout le jeu. Tout le jeu, elle passe tout le jeu à se préparer à ce niveau-là. Donc le fait d'annoncer un choix drastique pour la suite, ça tourne autour du personnage et ça reste assez cohérent. Voilà.
Je voudrais d'ailleurs rajouter que le libre arbitre permis par le choix des quêtes annexes d'EDA s'inscrivait dans la version japonaise du jeu avec deux autres choix en plus des deux qu'on avait dans la version européenne. Deux choix qui déclenchait en fait des mauvaises fins aux quêtes annexes. En fait, ces mauvais choix, je ne sais pas exactement s'ils empêchaient de récupérer l'astérisque, ce qui semble assez logique, ou s'ils étaient juste porteurs d'une mauvaise morale à la fin. Mais en tout cas, ça s'inscrit assez bien dans ce que Liv dit au sujet du libre arbitre DDA et sa construction en tant que personnage pour la suite, en fait.
Ah, puis à ce sujet, c'est vrai que pointé et on peut avoir, bah, on peut supposer deux choses en fait. La première, c'est que c'était une bonne idée de dire que des fois, il y a certains choix qui peuvent être mauvais, parce qu'au final, en effet, là, on a que des bons choix. Mais ça peut être bien des fois de se dire, tiens, bah, ce choix-là, il est carrément mauvais, en fait, il fallait pas le prendre. Maintenant, vu que ça a été retiré après dans la version définitive, on va dire, du jeu, il faut croire du coup que les développeurs ont voulu, alors, soit finalement dire il n'y a pas de mauvais choix dans la mesure où on va jusqu'au bout et où on les assume, soit c'est purement au niveau du gameplay, comme tu dis, pour permettre aux joueurs d'obtenir toutes les astérisques et de pas générer de mauvaises fins en plein milieu d'une quête secondaire. Donc il y a l'hypothèse gameplay et l'hypothèse morale en fait. Bon, après ça, seuls les développeurs savent, j'ai envie de dire.
En effet. Mais en tout cas, ça explique pourquoi il y avait un compteur de morts dans la caverne où on obtient l'astérisque du mage noir.
Et ça devait être bien creepy, d'ailleurs.
Oui, parce que dans les deux choix, il n'y a pas de mort, mais dans la version japonaise, voilà, il pouvait y en avoir, ils pouvaient tous mourir.
C'était assez, assez dur. Bah, en fait, surtout, peut-être qu'à ce niveau-là, ça contrastait trop avec les autres quêtes annexes, parce que la plupart des quêtes annexes ont un côté presque un peu comique. Bon, après, il y a le coup du meurtre, il est peut-être un petit peu moins, mais souvent, les quêtes annexes ont un côté, en fait, un petit peu comique, et peut-être que ça tranchait trop avec l'esprit des autres quêtes annexes. C'est possible.
C'est possible aussi. Mais en tout cas, ce que tu as dit aussi, notamment la citation de Sylvie de tout à l'heure, où il parle d'Agnès, nous donne quand même un cadre assez intéressant pour le prochain jeu. Moi, je pense pas, en tout cas c'est mon avis, je pense pas qu'on va avoir un changement total de contexte historique et géographique. Je pense qu'on va rester sur Luxandar et aussi dans le royaume céleste, voire peut-être la Lune, pourquoi pas. Mais si le dialogue de la matriarche évoque le futur DDA, alors à ce moment-là, ça fait sens. Ça fait sens pourquoi ? Parce que Agnès, elle détient le sablier grâce à Tease et elle détient le pendentif. Brisé, certes, mais elle le détient quand même. Ce qui fait qu'elle possède avec Tease deux des trois reliques de la licence. Ce qui indique pour moi aussi que le jeu est centré sur Tease. Les deux jeux, comme on a dit au début, ils commencent et ils finissent sur Tease. Et du coup, je pense que le troisième commencera sur Tease et Agnès. Et peut-être que Tease sera personnage jouable, peut-être pas, mais en tout cas, il sera, à mon avis, aussi au début et à la fin. Parce que c'est quand même un personnage qui contient pas mal de zones d'ombre sur ne serait-ce pourquoi est-ce que son corps est resté alors que son âme est tombée dans le gouffre. Voilà.
Alors, ça c'est peut-être un truc sur le destin des habitants de son village, ça on en parlera peut-être plus tard. Puisque bon, si vous n'avez rien d'autre à dire sur le personnage d'Idea, du coup on va pouvoir enchaîner cette fois-ci sur le personnage de Yoko, vu que c'est ce qui vient naturellement après, vu que Yoko fait certains déclics chez Idea. Alors Yoko, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage polymorphe déjà, il est de bon ton de le dire. L'équivalent d'une déesse, ça oui. C'est un personnage qui contient et qui concentre les émotions humaines et les émotions refoulées. Alors, certains, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions positives en Yoko, mais elle contient en fait tous les sentiments et émotions négatives, et notamment les sept péchés capitaux. Et ce qui fait que sa façon d'être, disons, Yoko au naturel, c'est une énorme troll. Ça c'est un état de fait. Et après, bon, il y a plein de choses intéressantes à dire sur Yoko, notamment que elle sait qu'il y a différents mondes. Et Et elle est recherchée comme une criminelle par une association qui est au niveau du multivers. Ça, bon, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On sait juste que cette association existe. Merci Ringabel. Et on sait juste que cette association traque Yoko. Après, pourquoi elle le traque, ça, on n'en sait pas grand-chose, vu que Yoko, finalement, elle concentre du mauvais, mais aussi elle concentre du mauvais afin qu'il ne se répande pas. Donc, vu que Yoko est au centre de l'histoire de la peste, donc qui a déclenché les événements de Bravely Default avec Brave qui pète un plomb et qui attaque, enfin qui pète un plomb non, mais bon, qui prend les devants et qui attaque, toute la frustration, toute la corruption qu'il y a dans la garde cristalline, tout ce genre de choses ont été déclenchées par Yoko qui a été sortie de sa caverne. Et qui a donc sous la forme d'une petite fille qui a été sortie de sa caverne et qui a déclenché la peste. Et peste qui d'ailleurs, dit en passant, n'a pas trouvé de remède. La peste est morte parce que toutes les personnes qu'elle avait contaminées sont mortes. Et donc voilà, tout ça pour dire que Yoko est un personnage très ambigu, puisque dire que c'est un personnage mauvais, c'est faux, c'est-à-dire qu'elle fait des choses pour un plus grand bien, mais elle contient du mal, ça c'est sûr.
Alors vis-à-vis de Yoko, il y a un truc que tu as dit qui est en effet pas mal, c'est tu l'as plus ou moins qualifié de déesse. Alors après, est-ce que c'est le terme approprié? Ça, c'est dur à dire. Par contre, elle a une sorte de regard assez incroyable, en fait, sur ce qui se passe. On a l'impression qu'elle est vraiment au courant de tout, et limite qu'elle ressent complètement ce qui se passe sur Luxendark. C'est-à-dire que ce soit au niveau des péchés, mais même au niveau de tout le reste. D'ailleurs, un point intéressant, c'est que yokai, en japonais, c'est un terme qui peut être utilisé pour désigner littéralement les phénomènes surnaturels ou inexplicables. Et ça... Enfin, je trouve que ça correspond bien au fait qu'elle fasse disparaître la disparition qu'elle dit ça, que ce soit pour le joueur ou pour les persos, c'est complètement inexplicable. Je veux dire, le continent n'est plus là, il est complètement isolé du reste dans l'esprit des gens, et du jour au lendemain, hop, il rip-hop comme ça, un peu de manière inexpliquée. Donc c'est cohérent que Yoko soit derrière tout ça. C'est plutôt, je pense, bien trouvé de la part des développeurs, et sûrement pas un hasard. Et en effet, bah, c'est pas rien, puisque son action de cacher qu'elle dit cela, ça pourrait être effectué pour empêcher Anne d'utiliser le gouffre pour faire passer les balles. Donc c'est plutôt malin, on va dire, de le faire réapparaître qu'assez tard dans le jeu. Alors pourquoi, si elle le fait réapparaître là, peut-être qu'elle souhaite que les héros aillent exterminer Providence, et donc permettre de sauver Luxendark en permettant à Altaïr d'aller voir Vega. Bon. Ça, c'est en effet, c'est la partie complètement théorie, c'est de se dire, est-ce que Yoko, elle veut sauver le monde ou pas? Moi, personnellement, je pense que oui, c'est-à-dire que je pense que Yoko, elle fait pas tout ça pour rien, que ce soit le fait de contenir la peste, que ce soit le fait de contenir les péchés, elle est quand même attachée à la survie de Luxendark, et ça, c'est indéniable. Elle ferait pas ça si son but, c'était de plonger le monde dans le chaos. Et le fait qu'elle ait un contrôle énorme sur les événements, ça me laisse croire que derrière c'est elle qui est en partie responsable du fait que tout se passe bien. Et dernièrement, à ce sujet, Yoko, pour moi, c'est un petit peu son rôle, c'est un petit peu de dire bah tiens, on va se forcer à se faire du mal pour qu'au final ça se termine bien. Le fait qu'elle cherche à creuser dans les sentiments des personnages, bah ça leur permet de résoudre leurs problèmes, que ce soit par exemple pour Yu et Magnolia, de les titiller un peu pour les forcer à parler avec plus de sincérité et au final avouer leurs sentiments mutuels, ou même par rapport à Edea. Moi, je pense qu'en fait, quand elle rappelle à Edea Ringabel, je pense qu'au final c'est aussi pour qu'elle soit honnête avec elle-même par rapport à ses sentiments sur Ringabel, et je dirais qu'elle cherche quand même un impact globalement positif. Et c'est ce qui rend le fait qu'elle soit recherchée d'autant plus intriguant et d'autant plus confus, vu qu'on sait que des personnages comme, comme Ringabel ou Yuliana qu'on entend peut-être à la fin, sont des personnages qui ont aussi prouvé qu'ils cherchaient globalement le bien de tout le monde. Donc le fait de voir Yoko et Ringabel, par exemple, s'affronter, c'est assez intéressant. Voilà.
Bah, d'autant plus que là, Yoko, elle sert vraiment d'élément déclencheur pour, notamment pour Idea, pour faire tomber son masque de bonhomie, plus ou moins, qu'elle a son masque d'émotion positive qu'elle a durant tout le jeu, pour, parce que, ouais, et lui rappeler que, non, là, présentement, elle est seule, et que, il lui manque quelqu'un, quoi, et c'est un peu ça, ouais, c'est Yoko sert vraiment d'élément déclencheur. Et oui, non, par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle cherche à faire le bien, ça, c'est. Et le bien à grande échelle.
D'ailleurs, histoire de faire une petite parenthèse à ce niveau-là, j'ai cité Yuliana comme si c'était acquis, mais je pense, moi, que Yuliana a quelque chose à voir avec Ringabel. Après, ça reste de la théorie, on n'a pas de preuves. J'ai plus bien l'épilogue en tête, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais je sais pas ce que vous en pensez rapidement là-dessus, sur le fait que Yuliana ne soit pas mort et soit un peu derrière, soit un peu, travaille un peu en arrière-plan avec Ringabel.
De toute façon, on sait que Yuliana n'est pas mort, on sait juste qu'il est parti dans les étoiles.
Voilà.
C'est ce qui est dit. Mais alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est parti au Royaume Céleste? Est-ce qu'il a trouvé de la technologie des vaisseaux, parce que qui est présente dans Bravely Second? Bon, sur la Lune, mais bon, qui est théoriquement présente quand même. Et est-ce qu'il a trouvé ça? Est-ce qu'il s'est bricolé un truc? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et j'espère que la réponse sera donnée dans Bravely Second.
Voilà.
Et donc, Asriel, un avis sur la question?
Non, je crois que vous avez tout dit, c'est très complet et très intéressant.
Ok. Alors, qu'est-ce qui fait un autre lien qu'il y a entre Yoko indirectement et le reste? C'est donc Yoko contient les 7 démons qui correspondent aux péchés capitaux, et il se trouve que les deux fées, donc Anne et Eiri, connaissent certaines attaques des démons. Et donc ces démons qui sont des concentrations d'émotions négatives, et donc les fées connaissent certaines des attaques. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Alors, par rapport à ça, moi c'est vrai que là-dessus je suis assez mitigé. À la fois, on l'a dit, les éléments de gameplay en général sont jamais là tout seuls et sont jamais là au hasard dans ce jeu. Ils sont souvent là pour expliquer autre chose, pour être en relation, on va dire, en cohérence avec le scénario. Pourtant, j'ai du mal à trouver une explication. Par exemple, on sait que Eri utilise la capacité Luxure, qui est utilisée par un des péchés dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, je ne sais plus lequel, comment s'appelle celui qui incarne ce péché. Toujours est-il que j'essaye de voir un rapport entre Eri et la luxure, et j'ai du mal à le trouver personnellement. La luxure, pour rappel, c'est le, on va dire, l'attachement irraisonné au plaisir sexuel. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, parce que je vois pas quelle relation il y a entre Eri et ça.
Alors, je vois bien une relation, mais elle est complètement Peggy 18, et c'est ça. La forme qu'elle prend pour nous affronter.
Alors, ouais.
Voilà, qui est une forme complètement dégueulasse. Mais bon. Ça prouve une forme de perversion. Enfin, c'est.
Ouais, un petit peu. Après, voilà, il y a une forme. Mais pour moi, c'est plus. Il y a une perversion. Enfin, Eri est perverse dans le sens où elle est perverse au niveau de la manipulation. Mais pour le coup, je vois aucun rapport entre Eri et le plaisir sexuel. Enfin, elle en a pour le coup complètement rien à faire. Son but, c'est juste de réveiller au robot C'est pour ça que j'ai... Après, voilà, elle est très... Il y a un certain attachement, notamment, d'ailleurs, c'est une sorte de différence entre Eri et Anne à ce niveau-là, c'est que Anne n'en a un peu rien à faire d'elle-même. Anne, tout ce qu'elle souhaite, c'est que Providence réussisse à la fin, et d'une certaine façon, bon, elle a un besoin de reconnaissance, mais elle a un besoin de reconnaissance, on va dire, qui est assez modéré à la fin. Finalement, elle a réussi, elle, c'est tout ce qui l'importe. Eri, on sent qu'elle cherche vraiment à ce que Ouroboros reconnaisse ce qu'elle fait. Tout le long, elle quémande ça, finalement. Elle dit, voilà, maître Ouroboros, est-ce que vous êtes fier de moi, etc. Est-ce que je vous ai déplu ? Elle est très, très attachée à ça. Bon, après, est-ce qu'elle a un amour irraisonné pour Ouroboros ? Là, je pense qu'on part très, très loin. Mais elle est quand même... elle est plus, peut-être, centrée sur elle-même, au-delà de son utilité, de la raison pour laquelle elle a été créée. Après, est-ce que c'est un péché ? Il faut voir. Est-ce que c'est un péché ou une qualité ? Ça, par contre, ça se discute.
Bah, c'est vrai qu'elle a un orgueil assez élevé, ça c'est sûr.
Voilà, c'est plus l'orgueil. Mais du coup, est-ce que l'orgueil, pour le coup, enfin, au niveau de ses compétences signatures, elle a pas celle de l'orgueil. Par contre, là, je me rappelle plus du tout quelle est la compétence signature du péché de l'orgueil. Ça, je ne l'ai plus en tête, mais je crois pas qu'Eri l'ait, pour le coup.
Ok. C'est vrai que Anne est beaucoup plus, elle est beaucoup plus au courant de sa condition d'outil.
Ah bah, elle l'assume complètement et elle s'en contente très bien en fait. C'est-à-dire que elle est contente à la fin. Voilà, elle a réussi son coup et voilà, c'est clair qu'elle s'en fiche complètement à ce niveau-là. Et du coup, elle est pas gênée par son orgueil, on va dire. Elle se concentre peut-être plus. Elle se concentre vraiment beaucoup plus sur la tâche à accomplir, parce qu'au final, c'est un petit peu l'orgueil d'Eri qui fait qu'elle est trop en confiance. Elle est certaine de gagner à chaque fois, et c'est ce qui la trompe finalement.
Je suis pas sûr que Eri soit moins orgueilleuse qu'Anne, qui est tout aussi persuadée qu'elle va gagner dans les deux combats qu'on fait contre elle.
Je suis d'accord avec toi. Alors après, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors peut-être de manière assez modérée, dans le sens où Anne ne s'attend pas forcément à perdre contre toi. Par contre, elle part du principe que c'est bonus, parce que les deux fois où finalement Anne fait une confrontation directe avec toi, elle part du principe que même si elle perd, c'est pas grave, vu que de toute façon elle a réussi. Que ce soit quand elle a, bah déjà quand elle dans le premier monde. La première fois, quand elle détruit la lune, elle a gagné. Concrètement, elle, qu'elle meure ou pas à la fin, elle a réussi son coup. La lune est détruite, les balles envahissent Luxendark, et c'est la cata. Et la deuxième fois, pour le coup, bah là encore, elle a réussi, puisqu'elle a réussi à utiliser le gouffre pour faire passer les balles. Et elle se dit, bah, c'est bon, Dame Providence va arriver, ça y est, c'est fait. Ce qui fait que finalement, elle t'affronte, c'est bonus. Et au moment où elle perd, bah, limite, elle en a plus grand chose à faire, en fait. Elle en a plus grand chose à faire parce qu'elle sait qu'elle a déjà gagné. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est assez différent d'Eri. C'est qu'Eri, elle part du principe qu'elle va t'arrêter parce qu'elle va te battre. C'est pas bonus, on va dire. C'est... Son rôle, c'est de t'éliminer. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait 1000 fois d'affilée, en fait. Elle a fait... Enfin, quand je dis 1000 fois, voilà, elle a relié un millier de mondes entre eux, pour pas dire une infinité. Et systématiquement, elle a éliminé le groupe des héros. Donc à force, elle est complètement en surconfiance. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle te prend totalement de haut dans les combats. Et c'est la différence, elle se situe peut-être là.
Oui, et d'ailleurs, ce que tu dis permet de rebondir sur une chose intéressante. Quelle est la différence majeure entre les 999 fois où elle a réussi à tuer notre groupe et la 1000e fois ? C'est la présence du joueur. C'est le fait que le joueur a été là à un moment précis pour contrôler les actions du groupe et lui permettre de gagner contre Eri et contre Ouroboros. C'est ça qui fait toute la différence et qui continue d'inclure un peu plus le joueur dans la dynamique des deux jeux.
Et alors justement, du coup, la transition entre guillemets est parfaite parce que ça nous permet de dire, voilà, on sait que les démons des 7 péchés capitaux sont faits d'émotions. Mais on sait aussi que les fées sont des êtres créés, mais du coup potentiellement les fées sont créées à partir justement d'émotions, donc peut-être pas forcément une émotion, mais peut-être plusieurs. Et Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les âmes des humains peuvent être aussi substituées par des amalgames d'émotions. C'est justement ce qui fait que Tease est en vie à la fin de Bravely Second. Et il y a un dialogue qui dit que les fées et les humains de Luxembourg sont pas si différents que ça. De deux points. D'une, justement, qui sont composées d'émotions, machin. Et aussi que, ils sont manipulés en permanence. C'est les fées manipulent et sont des outils de leur maître. Et en même temps, les humains et surtout le groupe des personnages principaux sont manipulés par le joueur.
Pour être sûr qu'on parle de la même chose, est-ce que tu parles du dialogue que Anne dit à Tease? Est-ce que tu parles de ce dialogue-là?
Oui.
D'accord. Je pense que ça vise pas trop les humains. Je pense que c'est l'objet de la théorie qu'on développe. Je pense que ça vise surtout le groupe de joueurs qui lui aussi est manipulé par quelque chose. Mais du coup, que c'est pas lié aux humains, que c'est vraiment une comparaison entre les fées et les habitants de Luxandar pour dire que tous les deux, de toute façon, ils servent les intérêts de quelque chose de plus grand, à savoir Providence ou le joueur, c'est-à-dire l'humain.
C'est vrai. J'ai peut-être été un peu trop. J'ai peut-être été un peu trop large, pardon. Et justement, ce qui est sympathique avec les Bravely, c'est que justement, c'est présenté au début. C'est présenté comme une manipulation, mais en même temps, sur la fin, c'est vraiment présenté comme un état qui pourrait se rapprocher à de la guidance ou à même de la symbiose. La symbiose, je mets ça plus pour quand pour le personnage de Tease, quand il y a l'âme du joueur à l'intérieur de lui, puisque l'âme du joueur permet à Tease de vivre et le corps de Tease permet à l'âme du joueur de sauver le monde, enfin les mondes. Et donc après, pareil avec l'âme d'Altaïr, vu que l'âme d'Altaïr permet à Tease de survivre et le corps de Tease permet à Altaïr de faire ces choses, voilà, choses dont on va parler juste après.
Oui, du coup, à propos de ce que tu évoques, c'est très intéressant d'étudier à ce titre le rôle du monde céleste, c'est-à-dire que, en fait, depuis le début, on nous rabâche le monde céleste, on nous rabâche les Baals, qui sont, il me semble, des souvenirs de négatifs de Vega, ou plutôt des souvenirs positifs qui ont été corrompus. Est-ce que c'est bien ça?
Absolument.
Donc, on peut déduire très facilement, et d'ailleurs, c'est pas caché du tout, que le monde céleste, c'est le monde des humains. Et à propos de ce que tu dis sur la symbiose, moi, je pense tout de suite au combat final contre Providence, qui me semble porter à son maximum le lien entre le joueur, les personnages jouables et Providence et la fée Anne.
Ah, bien sûr.
Donc, pour rappeler brièvement, je rappelle que Providence prend le contrôle de votre déesse, menace de. Enfin, est sur le point d'effacer votre sauvegarde jusqu'à ce que You intervienne dans le menu principal du jeu en utilisant un SP. Pour vous ramener au moment du combat final, après que Providence ait pris le contrôle de vos personnages.
SP qui d'ailleurs était caché dans le titre du jeu. Alors, autant dans Bravely Default, donc le sous-titre du jeu serait arrangé pour dire que Eri ment, parce que bon, c'était le sous-titre c'était Where the Fairy Flies, donc il y avait des lettres qui s'enlevaient pour mettre Eri Lies, bon, ce qui est assez vite, on comprenait assez vite. Et donc le Bravely Second, le sous-titre c'était End Liar. Et s'il se rajoutait, donc quand on était à la fin du chapitre 4, se rajoutait donc SP, donc c'est Sand Player, donc qui était un indice sur le fait qu'il fallait utiliser Bravely Second pour pouvoir passer au chapitre 5 du jeu. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que c'est bien un SP. Ce qui fait que, bon, c'est un peu méta, mais pourquoi pas?
C'est pas méta du tout quand on. Enfin, je veux dire que c'est pas idiot du tout, parce que dans le dialogue du combat final, il y a cette phrase à la fin quand on revient qui dit « Cette fois, c'en est fini de toi, Providence, On porte en nous les espoirs de ceux que nous avons laissés sur Luxandark, mais aussi de la personne qui veille sur nous depuis tout ce temps. Cela nous donne une force inimaginable, suffisante pour vaincre une déesse. Astide, ce n'est pas méta du tout, c'est même la volonté claire des concepteurs du jeu.
À ce niveau-là, peut-être je rajouterais, il y a un parallèle assez intéressant, c'est que dans les deux cas, cet élément caché dans le titre, c'est plus ou moins l'élément qui va contrôler les personnages, sauf que dans le premier cas, ça va être péjoratif, et dans le deuxième, ça va être amélioratif, enfin, si je puis utiliser ce mot-là, parce que clairement, au départ, c'est Eric qui manipule le jeu, finalement, et qui va l'induire en erreur, et dans le deuxième cas, c'est en quelque sorte le joueur qui dirige le groupe. Cette fois-ci, on ne va pas vraiment parler de manipuler, on va parler de diriger, mais ça va être le joueur qui va être derrière les actions du groupe et qui va les mener à faire de bonnes actions. Et au niveau de ce moment où Yu réagit, en effet, et puis empêche le joueur de delete complètement sa sauvegarde, il y a une image qui est magnifique d'ailleurs, c'est la manière dont il brise le quatrième mur, puisque l'expression « briser le quatrième mur », elle est carrément illustrée dans ce passage, vu qu'on a l'écran qui se brise au moment où Yu le frappe de son épée. Bon, qui se brise, il se brise pas réellement pour le coup, mais il se brise dans le jeu. Et c'est une excellente manière de le présenter, et sûrement un des meilleurs quatrième mur brisé que j'ai pu voir dans le jeu vidéo. Quoi, à ce niveau.
Alors, je t'avoue que par rapport à ça, j'irais encore plus loin, j'irais même jusqu'à dire que le quatrième mur n'est pas brisé, parce que le quatrième mur était déjà derrière nous. Vu que dans Bravely Default, on était déjà dans Tease, donc... partant de là, enfin dans Bravely Second, on est pas loin du groupe non plus, quoi.
On est même tellement pas loin que même dans Bravely Default, quand il s'agit d'exalter les cristaux, on peut continuer à appuyer sur X et provoquer la fin normale où Eri nous dit qu'il en faut beaucoup du courage pour désobéir aux ordres de quelqu'un. Donc on est déjà effectivement derrière le quatrième mur dès le premier jeu.
Ah oui, absolument.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que ce moment où on peut choisir de désobéir, finalement, c'est le moment où les... Bon, on va dire oui, c'est le joueur qui fait le choix, mais d'une certaine façon, le personnage, il a le choix entre obéir à Eri, soit obéir au joueur, en fait. C'est finalement un moment où ça se croise, où les personnages se croisent entre faire confiance au joueur ou faire confiance à Eri. C'est plutôt pas mal, même si au final, bon bah c'est le joueur qui prend bien sûr la décision.
Ça pose effectivement la question de notre obéissance hein, sur ce plan-là, puisqu'après tout, c'est nous qui appuyons sur X.
Exactement.
Et Providence nous dit d'ailleurs, vous vivez peut-être au royaume céleste, mais moi j'en suis une déesse. Ça ouvre pas mal avec le triangle Illuminati, on se croirait qu'on confronte un état ou un organisme quelconque qui dépasse la simple personne.
Et à ce niveau-là, j'aurais peut-être une théorie un peu farfelue, mais est-ce que Providence, d'une certaine façon, c'est pas un peu l'air de dire... ça représenterait pas un peu les développeurs du jeu? Parce qu'au final, malgré tout, on est en train de jouer à un jeu vidéo. Et est-ce que le joueur a un contrôle total? Bah pas vraiment. Le joueur, il a un contrôle qui est limité dans le cadre de ce qui a été défini par les développeurs. Donc quand Providence dit « je suis une déesse dans ce royaume céleste », bah finalement, la déesse, le dieu un peu du jeu à la base, c'est qui? Bah c'est un petit peu le développeur en fait. C'est lui qui a cadré ça. Bon, est-ce que Providence, ce serait un peu l'expression de ça? Je vais peut-être très très loin pour le coup, mais pourquoi pas.
C'est une interprétation qui peut être intéressante, mais bon, malheureusement, on n'a pas forcément le temps d'en parler plus. Alors, donc, en restant sur la symbiose et sur le royaume céleste, maintenant, on va parler donc du personnage d'Altaïr. Alors, Altaïr est un habitant du royaume céleste, donc qui était un scientifique, et qui est parti sur Luxandark en abandonnant Vega, et qui a fait toute la technologie présente sur la Lune. Je crois que c'est lui qui a fait la technologie des Sagittas, donc avec l'énorme canon ASP. C'est lui qui a fait. Il a vraiment fait pas mal de choses. Et là, il réapparaît. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Parce que Altaïr, bon, on va partir de la conclusion. Altaïr est un personnage qui cache des choses. Énormément. Vu que pourquoi est-ce qu'il veut à ce point s'opposer à Providence? Voilà, la question de base, c'est pourquoi. Puisque pourquoi est-ce qu'il cherche vraiment il cherche à ce point la boussole du temps? Est-ce qu'il veut revenir dans le temps pour retrouver Vega, donc revenir dans le temps avant qu'il soit parti? Ça nous pose la question de pourquoi est-ce qu'il a abandonné Vega. Peut-être que les deux avaient son opposition à Providence peut montrer qu'ils auraient un plan pour renverser les dieux, peut-être. C'est beaucoup de questions qui se posent, mais bon, après, je vais laisser mes deux compères développer.
Dans ce qu'on sait, dans les faits, on sait que Altaïr, il dit qu'il veut à tout prix retrouver Vega dans Bravely Second. Pour ça, il est dans le personnage de Tease et il nous aide. Il écrit en violet sur le bestiaire dans le journal de Yu. Et comme tu as dit très justement, pourtant, on sait que Altaïr a abandonné Vega. Que voilà, du jour au lendemain, il est parti et il l'a laissé toute seule. Donc, ça pose déjà une sérieuse question. On sait aussi qu'il veut à tout prix la boussole du temps, qu'il est extrêmement heureux quand il retrouve avec Vega la boussole du temps. Donc, comme ça intervient à ce moment-là, je doute que ce soit pour aller sauver Vega, puisqu'on est déjà dans la situation où il a retrouvé sa femme. Donc, en fait, je me demande pourquoi est-ce qu'il veut se servir d'une telle boussole, alors que manifestement, sa happy end est atteinte. Il a retrouvé Vega, il a retrouvé sa femme. Qu'est-ce qu'il veut de plus maintenant ? Moi, je pense qu'il y a des arrière-pensées très importantes, peut-être pas jusqu'à dire malsain, parce qu'il est quand même l'ami de Deneb, qui est d'une grande aide dans le jeu, puisque c'est l'aventurier. Mais en tout cas, il ne nous a pas tout dit. Voilà, ça, c'est pour les faits.
Alors, donc, par rapport à ça, on va donc du coup évoquer les balles. Donc, les balles sont ces êtres qui sont créés par Providence, mais à partir de Vega, donc à partir de la... Oui, à partir des pouvoirs de Vega. Et on peut différencier deux types de balles. Ceux qui ont un niveau de puissance affiliable au scénario, et ceux qui ont un niveau de puissance affiliable à un boss fait pour faire réfléchir les joueurs à la fin du jeu. Et il y a quand même un sacré palier entre les deux. Donc, les premiers sont, à mon avis, créés par Providence pour son plan d'invasion de Luxandark. Et, à mon avis, les deuxièmes sont créés par Vega inconsciemment. Et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que Providence est extrêmement plus puissante quand elle arrête de contrôler Vega.
Bah ça, la raison, c'est une théorie qui revient souvent, c'est de dire que le pouvoir de Vega est énorme, et que Providence, pour garder un contrôle sur Vega, doit déployer énormément de puissance. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez probable. Après, au niveau des souvenirs, les balles, bah, ça représente ses souvenirs. Je pense que la première chose à en tirer, c'est quand même la force des émotions de Vega. C'est surpuissant. C'est-à-dire que les balles... Un bal reçu via le net qui est envoyé et transféré par les autres joueurs représente finalement, enfin ces balles là comptent parmi les boss les plus puissants du jeu, et on l'a déjà vu, quasiment tous les éléments de gameplay du jeu sont expliqués, il n'y a pas de hasard. Donc la puissance de le fait que ces balles soient extrêmement puissantes, ça prouve que les émotions de Vega peuvent dépasser en puissance ce qui est imaginable en fait dans l'univers de Bravely Default et Luxandark, enfin de ce qu'on connaît dans les deux jeux. Donc ça met un gros point d'interrogation sur la puissance réelle de Vega. Ça met un point sur la puissance de Vega, mais aussi sur qui sont vraiment Vega et Altaïr, parce que Altaïr c'est pas n'importe qui. Il a quand même une connaissance et un savoir au niveau de Luxandark qui sont colossaux. Je veux dire, il s'exprime sur absolument toutes les créatures possibles dans le journal. Il a quand même une connaissance, mais qui dépasse à mon avis celle de la plupart des scientifiques du jeu, si on peut dire, quoi, à ce niveau-là. Donc c'est pas rien. Je veux dire, tout ce savoir, ça demande énormément de temps et de travail. La puissance de Vega derrière, elle est quasi certaine. Donc, ouais, Altair et Vega, c'est clairement pas du tout n'importe qui, c'est pas rien. Donc, pourquoi ? Donc, s'il veut la boussole du temps pour faire un truc maléfique, c'est pas du tout bon pour le groupe, on va dire. Maintenant, voilà, on l'a répété, il connaît Deneb. Deneb, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant aussi, mais qui veut du bien pour le groupe. Ça semble complètement évident. Donc ouais, pourquoi ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'il dirait pas tout ? Alors on sait à ce niveau-là, je reviens peut-être un petit peu en arrière par rapport à Yoko, mais pour le coup, est-ce que des fois c'est nécessaire ? Est-ce que des fois pour rechercher la sécurité de quelqu'un, c'est pas mieux de tout dire ? Parce qu'on avait abordé avant avec Yoko le fait qu'elle allait des fois chercher à dire des choses compromettantes, quitte à créer des malaises, pour peut-être, je dis bien peut-être, le bien du groupe. Est-ce que Altair ne cacherait pas des choses pour le bien du groupe aussi ? Est-ce que ses actions ne seraient pas finalement positives ? Faut envisager cette hypothèse. C'est pas forcément mauvais ce qu'il cherche à faire derrière.
Bah, le fait est qu'on ne sait pas ce qu'il cherche, on ne sait pas ce qu'il cherche à faire. On sait qu'il cherche à faire des choses, mais on ne sait pas. Et alors une dernière chose du coup que j'aimerais dire par rapport à la, enfin il y a encore quelques deux trois choses que j'aimerais dire par rapport à ce couple Altair Vega. C'est alors il y a un bal qui a été rajouté après le jeu, donc enfin après la sortie du jeu via internet tout ça, c'est Firstborn. Firstborn qui est donc un gros nounours avec un biberon. Ça pourrait donc qui apparaît comme un bal, donc qui apparaît comme ça a été fait à partir de quelque chose de positif, mais en même temps, ça il a pas la forme d'un bébé, il a la forme d'un nounours, donc c'est la question de est-ce que Firstborn représente donc cet enfant, mais est-ce qu'il a été réel ou pas? C'est est-ce qu'il est dans les accomplissements ou dans les regrets?
Alors à ce niveau-là, de toute façon à ce niveau-là, tous les balles ont une forme assez imprécise. C'est dû au fait qu'à la base ce sont des souvenirs, donc déjà qu'un souvenir en général c'est flou. Et ensuite voilà, c'est le souvenir, on peut éventuellement évoquer un peu le code du rêve, c'est-à-dire de déformer les choses. On a vraiment une ambiance un peu onirique d'ailleurs quand on affronte les balles. Donc le fait que ce soit un nounours, ouais, ça fait... Bon, déjà, le terme fort, tout dire. Tout ou presque. Je pense que le bébé est réel. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait réel ? Parce que les autres éléments semblent avoir existé. C'est-à-dire que si on part du principe qu'Altair n'invente pas toute cette histoire, les éléments, enfin, les balles, ce que représentent les balles, sont uniquement des faits réels, que ce soit la station de ski, le mariage, le laboratoire... Tout ça, finalement, ça a eu lieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aura des souvenirs, finalement, créés de toutes pièces ? Je pense pas. À ce niveau-là, on pourrait se dire, soit tout est faux, soit ça s'est vraiment produit. Par contre, par rapport au Firstborn, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que ce bal n'était pas là au départ à la création du jeu Bravely Second. Il a été rajouté après par les développeurs, comme tu l'as dit, par rapport à Bravely Default, on a Asriel, je crois, au début, qui a rappelé que les éléments qui font le pont entre Bravely Default et Bravely Second ont été rajoutés dans la version définitive de Bravely Default, une forte sequel, et n'étaient pas présents dans Bravely Default au départ. On pourrait se dire que ce bal Firstborn, qui a été rajouté après, à la fin de Bravely Second, il est vraiment là pour un lien entre Bravely Second et le troisième Bravely. Le fait qu'il soit mis là après les autres, c'est clairement pas un hasard. Et ça va occuper une place très très importante, sûrement, dans le troisième Bravely. Et il sera expliqué, quoi, quasi sûr.
Ça me fait réaliser, en fait, on se demandait pourquoi Altair et Vega voulaient la boussole du temps. Bah, s'ils ont eu un enfant et qu'ils l'ont perdu, bah, ça fait beaucoup sens.
Ah bah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça change tout. Parce qu'après, que je me rappelle bien. Vega au départ est parti. Altair est parti. Vega est morte, mais Vega est morte parce qu'il me semble que le monde d'Altair à ce moment-là, enfin pas le monde du coup, mais le lieu où ils habitaient a été détruit. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe.
Je saurais pas dire.
Je suis assez flou sur ce passage-là. Je vois bien que Vega, donc, est morte. C'est ça qu'on a son âme après. Donc, elle est peut-être morte, en effet, avec un enfant. Peut-être qu'il chercherait à retrouver cet enfant. Enfant qu'il n'a peut-être pas connu. Alors, soit il nous en parle pas, soit il nous le cache. Mais en effet, peut-être, je sais pas, que lui n'a pas eu le temps de connaître l'enfant et que c'est un souvenir envoyé après coup par Vega. Bon. Après, dans ces cas-là, je pense qu'il a... Non, là, je pense que je dis une bêtise. Si vraiment il a connaissance de l'enfant et que ce serait sa motivation, enfin, une de ses motivations pour retrouver la boussole, bon, bah, il a forcément connaissance de l'enfant. Il pourrait pas l'ignorer. Donc, non. Il en aurait forcément très connaissance. Par contre, ça peut être un élément qui cache au groupe. Peut-être qu'il peut... Parce que, en effet, les autres souvenirs nous sont expliqués par Altaïra. C'est-à-dire qu'on regarde... Soit on les voit, il me semble, dans le journal. On peut voir Altaïra en parler dans le journal. Soit il nous les explique après, quand on traverse le royaume céleste. Et en effet, on n'a aucune explication concernant Firstborn. C'est-à-dire, ce bal, il arrive comme ça. Il a une signification, mais à aucun moment Altaïr nous en parle, et il nous en parlera pas non plus, que comme ce bal a été rajouté après quoi, il n'apparaît pas dans les entrées du journal. Donc, finalement, oui, Altaïr ne nous pas du tout. C'est peut-être un des éléments qui nous cache.
Ou alors, c'est Denel qui est la fille d'Altaïr et Vega. Ça fait tout aussi sens.
Et qui pourrait être... Là, c'est vrai qu'on est dans la méga hypothèse, mais après tout, pourquoi pas?
Alors c'est la méga hypothèse, et là, je pense pas, puisque Deneb connaît Altaïr et Vega, et disons que, et suffit. Ah, c'est. Comment dire ça? Elle a pas l'air d'en parler comme si c'était ses parents ou quoi que ce soit, mais plus comme des compagnons de voyage.
Ouais, c'est vrai, c'est compagnons de voyage. Puis pour le coup, Vega, enfin pas Vega, je vais y arriver. Altaïr a absolument pas l'air surpris par Deneb. D'ailleurs, il en parle, il me semble, dans les pages du journal. Quand on a l'entrée de Deneb dans le journal, il dit quelque chose du type, ça fait plaisir de revoir un vieil ami. Enfin bref, une vieille connaissance, je crois. Donc bon, il semblerait que voilà, Altaïr soit pas du tout choqué par Deneb. C'est pour ça que il y a peu de chances que Deneb ait un lien très fort, genre un lien parent-enfant avec Altaïr, parce que dans le cas d'un lien fort comme ça, ça irait beaucoup plus loin. Et puis par rapport à Deneb, on va peut-être l'aborder après, mais c'est vrai que le rôle initial de Deneb, c'est une sorte de personnification du point de sauvegarde, mine de rien, et donc personnification d'un élément de gameplay. Est-ce que finalement on chercherait pas à trop lui en donner, on va dire, sur son rôle? Bon, elle a un rôle déjà énorme, vu qu'à la fin c'est elle qui sauve Tease. Mais je veux dire, est-ce qu'elle a vraiment un rôle, on va dire, compromettant dans l'histoire? À voir.
Bah justement, voilà, on va enchaîner. À moins que, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Altaïr? Moi, je veux juste te rappeler un dernier point, c'est que toutes les connaissances qu'il a sur le monde de Luxandar, qu'il les a eues quand il était dans un sablier, et que le monde de Luxandar, qu'il a quand même évolué. Ça, je vais rappeler ce point-là. Et dernier point, le pouvoir de désactiver les rencontres peut venir d'Altaïr, ça, on n'est pas sûr. Mais pareil, c'est un élément de gameplay. Ou alors, ça vient de Tease, mais on sait pas.
Alors, Pour moi, le pouvoir de désactiver les rencontres, je verrais plus ça peut-être comme un pouvoir. Alors lié à Tease, c'est vrai que ça pourrait être lié à Tease, mais je verrais peut-être ça comme un pouvoir lié aux joueurs parce que c'était déjà là dans Bravely Default. Et on sait qu'on ne peut pas l'utiliser dans le château du vampire parce que les pouvoirs des dieux, on va dire, les pouvoirs des dieux sont bloqués apparemment dans le château du vampire. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait pas diminuer les rencontres avec les monstres. Tout comme dans la faille dimensionnelle, même si dans la faille dimensionnelle, c'est pas explicite. Donc, sachant que c'était là dans Default, partir du principe que ça viendra d'Altaïr, reviendra à dire qu'Altaïr était déjà présent dans Default.
On avait déjà le sablier, donc techniquement, il l'était.
Techniquement, il l'était.
Et cette possibilité, elle commence dans Bravely Default dès qu'on est tout seul avec Tease. C'est une des premières choses qu'on peut utiliser, la régulation d'apparition des monstres. alors que dans Bravely Second, c'est bel et bien une fois que Tiz est réveillé et qu'on a mis l'âme d'Altaïr à l'intérieur de lui.
Ouais, alors je me rends compte que j'ai dit une bêtise en fait. Quand on a le dans Bravely Default, quand on a le sablier, l'âme d'Altaïr n'est pas dedans.
Normalement, non. Du
coup. Normalement, non. Donc, ça viendrait plus de Tiz.
Par contre, surtout que par rapport à Tiz, ce pouvoir de diminuer les rencontres, est-ce qu'on l'a avant ou après le sablier ? Est-ce qu'on l'a... Parce que c'est forcément... Bon, l'histoire démarre après que Tiz se soit réveillé, mais je sais plus à quel moment cet élément de gameplay vient s'intégrer, en fait. Si on l'a dès le départ ou pas. Moi, je pense pas qu'on l'ait dès le départ, puisqu'au début, il y a tous les combats liés au didacticiel, etc. Je suis pas sûr qu'on puisse désactiver les combats sur les premières minutes. Ça me semblerait bizarre. Et le sablier, on le reçoit vite. Donc c'est probablement après le sablier, en tout cas, qu'on fait ça.
Oui, là, il faudrait une précision que je n'ai pas.
Exactement, je ne l'ai malheureusement pas non plus. Mais bon, bah après, ça ouvre l'hypothèse, on va dire. Bon, puis sinon, concernant Altaïr, moi, éventuellement, la dernière chose que je pourrais ajouter dessus, c'est qu'il a, il peut écrire dans le journal, dans Bravely Second, et il dispose d'un stylo à sa couleur, et ça, c'est important, parce que ça nous rappelle que c'est vraiment un membre à part entière du groupe Altaïr, et pas simplement une sorte de PNJ qui accompagne le groupe. Le fait qu'il ait sa place dans le journal, qu'il ait un stylo pour lui, c'est hyper important. Les stylos, c'est vraiment la personnalisation, c'est la couleur du stylo, c'est l'expression. Allez. Personnage vraiment dans le journal, donc c'est vraiment, je trouve, primordial pour lui qu'il puisse avoir sa couleur, et ça le différencie de Tiz. En fait, il est en Tiz, mais c'est vraiment un personnage à part, et voilà.
Si tu veux aller plus loin, Leaf, de toute façon, quand Altaïr prend le contrôle du corps de Tiz, notamment dans la cité des Sagittas, si tu lances une attaque spéciale avec Tiz dans le combat qui suit, où c'est Altaïr qui a le contrôle de Tiz, c'est bel et bien la voix d'Altaïr qui prononce la phrase de l'attaque spéciale de Tiz.
Ah, ça j'avais pas remarqué, mais en effet, je savais que c'était lui qui parlait, mais j'avais pas remarqué qu'ils avaient carrément coupé la voix d'Altaïr sur la... Enfin, comme ça.
Oui, oui. Donc... donc on va enchaîner et puis presque terminer donc sur le personnage de Deneb. Donc Deneb, comme on l'a dit, est la personnification du point de sauvegarde, et donc c'est aussi un boss caché. Donc c'est un être qui a une puissance certaine, une puissance extrême, mais qui ne veut pas changer le cours des choses, et en fait elle accompagne, elle soutient le groupe. Et notamment donc grâce à son renard qui est avec elle, qui permet au groupe d'avoir des scènes supplémentaires sous la tente. Et donc c'est un point de sauvegarde, c'est aussi un marchand. Et sa plus grande implication, entre guillemets, c'est le moment où elle sauve Tiz, parce que elle peut, parce que elle en a rien à carrer de l'espace ou du temps. Que même sans la boussole, elle peut quand même utiliser le pouvoir sur le temps, notamment que techniquement on pourrait dire qu'elle a plusieurs boussoles vu qu'on peut aller l'affronter plusieurs fois et chaque fois looter les deux parties de la boussole sur elle. Ce qui fait dire aussi que finalement tous les habitants du royaume céleste pourraient être aussi puissants, que ce soit par la force créative d'Altaïr ou la force de Vega, donc qui a créé des balles et des balles super dures, ou Deneb qui est quand même le boss caché de Bravely Default, le boss caché de Bravely Second, et qui a un combat pas si simple que ça. Et donc une théorie sur Deneb, c'est que dans Bravely Default, les porteurs d'astérisques sont morts. Pour le premier monde. Or, dans Bravely Second, nous sommes dans le premier monde. Et tous les porteurs d'astérisques sont vivants. Donc il est possible que Deneb les ait sauvés. C'est l'une des personnes qui aurait le pouvoir de faire ça. Et alors après, pourquoi ? On n'en sait rien. Et pourquoi on n'en sait rien du tout. Et finalement, donc, la toute dernière théorie, donc la fin, on sait que l'âme du joueur était dentise dans Bravely Default. Maintenant, donc, je vais poser la question. Elle est où dans Bravely Second? On influence le groupe, on influence notamment Idea lors des choix de toutes les quêtes annexes. C'est, certes, ça a été dit que ces quêtes annexes permettent de la former au rôle qui sera le sien lorsqu'elle sera à la tête du duché. Mais voilà, l'âme du joueur, elle est où? Elle est forcément pas loin, parce que elle est forcément pas loin vu qu'elle permet de guider, vu qu'elle permet de faire plein de choses, vu qu'elle nous permet de contrôler le groupe, hein, tout simplement. Elle est évoquée, c'est évoqué directement, même la séparation qu'il pouvait y avoir entre le groupe et l'âme du joueur est littéralement découpée à la fin de Bravely Second. Et voilà, la question c'est globalement où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Est-ce qu'elle est par là, flottant? Voilà, du coup, c'est si vous avez des avis sur la question.
Personnellement, de toute façon, j'ai un avis pas du tout tranché sur la question, puisque je ne sais pas. Franchement, moi c'est un point personnellement où je sais pas vraiment. Pour moi, à partir du moment où de toute façon on contrôle le groupe, on influence les choix de tout le groupe. C'est pour ça qu'au niveau des choix des DA, je pense pas que ce soit un argument suffisant, parce que finalement les choix des personnages, on les prend pour chaque action. À chaque fois qu'ils vont effectuer une attaque, à chaque fois qu'ils vont marcher dans une direction, parler à quelqu'un, c'est finalement le joueur qui est derrière ses choix. Donc après, c'est la... Voilà, ça, c'est... De toute façon, c'est inévitable. Sinon, le joueur sera en train de regarder un film, on va dire, une série cinématique. Donc, pour le coup, j'ai pas vu d'indice et d'indication à ce niveau-là.
Très bien. Asriel.
L'autre théorie qui vient en contrepoids, ce serait de parler de Yu. Puisque Yu, dans le combat contre le Kaiser, est censé être mort, d'ailleurs sur demande d'Anne, qui veut à tout prix qu'il soit tué, alors qu'au final, il survit en étant dans le coma. Du coup, on peut dresser un parallèle avec Tiz sur ce point, qui est renforcé par le fait que c'est Yu qui vient envoyer le SP lors du combat final contre Providence. Voilà, c'est la théorie qui semble être une aussi des plus sérieuses, même si je pense que le Kaiser n'a pas tué Yu de manière volontaire, ne l'a pas achevé de manière volontaire, parce qu'ils sont quand même frères. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle.
Moi, par rapport à ça, je trouve ta première théorie, pour le coup, intéressante. Parce que on va dire, la série Bravely adore faire des parallèles. Et c'est vrai que le parallèle entre Yu et Tiz, il est assez évident. Et Yu, il prend quand même un sacré coup à 99 999 de dégâts. Enfin, j'ai peut-être rajouté un 9 en trop, mais on voit l'idée. Alors qu'il est déjà au sol et qu'il est déjà censé être KO. Il prend quand même... On va dire que... Enfin, j'ai pas l'impression que Denis feinte son attaque, quoi. Donc c'est vrai que le fait de dire tiens, c'est le joueur qui on va dire permet à Yu de survivre, c'est pourquoi pas. Après ta deuxième théorie, pourquoi pas, c'est vrai. Denis c'est quand même quelqu'un qui a un minimum de cœur, notamment on s'en rend compte à la fin. Il éprouve pas mal d'empathie pour ses anciens lieutenants. D'ailleurs au départ il en éprouve très peu. Au départ il en a rien à faire d'envoyer ses lieutenants à la mort. Petit à petit, ça le gêne, il n'a pas envie de le faire. Donc on sent qu'il a de plus en plus d'émotions qui viennent. Par contre, au moment où il achève Yu, à ce moment-là, j'ai pas l'impression qu'il soit justement gouverné par ses émotions. Parce que on le voit notamment quand il y a Bella et Kuulain qui échouent une première fois. Enfin, quand Bella échoue une première fois, il envoie littéralement Bella et Kuulain au casse-pied, disant, limite, sacrifiez-vous pour moi, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Or, après, voilà, effectivement, il évolue au cours de l'histoire pour devenir très empathique. Mais au moment où il achève Yu, j'ai pas l'impression qu'il soit du genre à vouloir l'épargner, en fait. C'est pour ça que je suis plus d'accord avec ton hypothèse du joueur, en fait.
J'avais fait de manière anecdotique pour préciser des petits calculs pour que le combat soit cohérent. Il faut que Agnès ait 18 000 points de vie, il faut que Braev en ait 25 000, il faut qu'Alternis en ait 25 000 et que Lou en ait 20 000. Sinon, ce n'est pas cohérent le combat. Mais bon, comme c'est un combat d'introduction, je ne suis pas sûr qu'ils aient été très rigoureux sur la barre de points de vie.
Alors à ce niveau-là, j'ai envie de dire, je crois d'ailleurs que... Je dis peut-être une bêtise, mais je me demande s'il n'y a pas... Alternis qui balance une frappe négative qui tape à 0 alors qu'il vient de subir 9999 de dégâts.
Oui, je tout à fait.
L'ordre des coups, mais je crois qu'il y a une petite un petit fail à ce niveau-là. Mais
bon. Ça sous-entendrait que la défense du Kaiser est supérieure à celle. Est énormément supérieure à l'attaque que renvoie Alternis, mais bon, ça me semble un peu.
Ce n'est même pas possible, je crois, parce que c'est du dégât fixe. Donc ça voudrait dire. Mais bon, ça après, il faudra que je revérifie si c'est ça ou si c'est une. L'attaque nébuleuse là, l'attaque
non, c'est la frappe négative, je te confirme.
En deuxième, bah s'il a fait en deuxième, elle est censée taper. Donc ça, c'est pour nous prouver que bon, comme c'est un combat d'intro, ils se sont pas trop pris la tête sur les valeurs.
Il y a eu l'attaque souffle de lumière, fléau noir, aigle noble, aérolite, frappe négative, tueur de colosse, météore. Il y a eu toutes ces attaques là.
Ah. Après, voilà, pour l'attaque à 99 999 sur Yu, la réponse est assez simple, c'est parce qu'à ce moment-là, on contrôle Yu, et donc on voit vraiment ses stats qui sont affichés, et tout simplement, le maximum de points de vie est 99 999.
Il a 9999, Yu, dans le combat d'introduction, pas 99 999.
Ah oui, bah, bon, il y a un 9 en trop, quoi.
C'est que 10. Ah bah dans ce cas-là, 10 000, c'est bon. Pas censé le mettre à bout. Bref.
J'ai fait le résultat, c'est il a 20 000 PV. Bah, c'est comme ça que c'est cohérent.
Ah, bon, il a peut-être mangé quelques brioches de balles avant de lancer sa partie. Hein.
Non, mais je crois pas qu'il y ait cohérence à chercher là-dedans, parce que regardez, là, on l'a entraîné pendant tout Bravely Default, elle redevient avec ses petits 100 PV au début de Bravely Second, là, ce serait pas cohérent non plus.
Non, je pense, c'est vrai qu'il prend très très cher au départ. C'est, parce qu'on sait quand même que Brev et Alternis ont l'air quand même pas mal blessés après le combat. Enfin, dans le lore, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a. On sent qu'ils sont ils sont quand même un petit contre-coup, quoi. Ouais, sachant que c'est quand même des guerriers extrêmement expérimentés, quoi. Ça veut dire que Yu, il prend le double de ce qu'ils se prennent dans la tête. Voilà, quoi, c'est pas rien, hein, genre, s'il survit, c'est le gros miracle. Et qui est-ce qui peut provoquer un miracle, si ce n'est le joueur?
Alors, Je vous remercie. Voilà, on arrive à la fin. Écoutez, je vais vous. Si vous avez un dernier mot à dire, allez-y.
Moi, le mot, c'est. Je dirais que voilà, la série Bravely, c'est très intéressant parce que c'est un jeu qui est présenté comme étant. Assez naïf et enfantin. Quand on se lance dans la série Bravely la première fois, on se dit, bah tiens, c'est un jeu assez simple, on va réveiller des cristaux, c'est mignon, c'est gentil. Et en fait, on se rend compte, d'une part, qu'il y a des scènes qui peuvent être extrêmement dures, en fait, derrière cet univers gentillet, notamment le début de Bravely Default, on a des scènes, ça commence par la mort de Teal, après on a quand même des gamines qui s'entretuent à un moment donné, c'est quand même pas rien, quoi. Donc c'est un jeu en fait qui est très profond. C'est un jeu qui dès le départ nous dit non, tu te trompes, c'est pas si gentillet, c'est ça va beaucoup plus loin que ça. La maturité d'ailleurs du jeu, des deux jeux, elle se ressent parce qu'on va beaucoup dans les émotions. On en a parlé là pendant tout l'aspect théorique. Le jeu est très très axé sur les émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Et dès lors qu'on parle là-dedans, c'est forcément complexe. Une émotion, c'est forcément complexe, c'est jamais simple. C'est toujours tiré par les cheveux. Même au niveau des antagonistes, il y a énormément d'émotions au niveau des antagonistes. Par exemple, Bravely Second, on a des antagonistes qui sont mis par pair pour justement accentuer ce côté émotion. Et c'est pour ça que j'adore, moi, creuser l'aspect Bravely. C'est parce qu'on peut dire énormément de choses, parce que tout est bien développé, bien pensé, et que rien n'est laissé au hasard, même dans des personnages secondaires, même dans des petits événements mineurs, des petits éléments mineurs comme ça, même dans le gameplay, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et Et c'est pour ça que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine, sur lequel ça vaut la peine de se pencher et de creuser. Donc c'était vraiment sympa d'avoir pu faire tout ça et d'avoir pu bah, creuser un peu cet univers qui est vraiment, vraiment passionnant.
Du coup, Astriel, ton mot de la fin ?
Alors moi, le mot, c'est attente. J'ai beaucoup d'attentes pour la suite de la série. J'ai pu avoir accès au jeu sur téléphone. Du japonais, je ne comprends pas grand-chose, mais ça me semble plus être un spin-off qu'autre chose. J'ai beaucoup d'attentes. Je n'ai pas été déçu comparé à beaucoup de gens qui ont râlé sur le fait qu'on reprenait des personnages, qu'on recyclait des choses dans le jeu. Il y a eu autant de contenu nouveau qu'il y en a eu dans Bravely Default, puisqu'en fait, ils ont réutilisé les anciens et ils ont ajouté les nouveaux. Ça a fait deux fois plus, en fait. Donc, ces critiques-là, je ne les accepte pas. Et enfin, en tout cas, je n'y adhère pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes pour la suite, parce qu'avec la sortie de la Nintendo Switch, je pense que déjà, ils ont le projet Octopath. J'ai oublié la fin, mais bon, c'est le projet Octopath sur Nintendo Switch. Je pense que ça leur ouvre pas mal de portes pour la suite, et je vois bien un truc dans le Royaume Céleste sur Nintendo Switch. Je trouve que ça rendrait très bien. Donc moi, j'ai plein d'attentes et plein d'espoir, et je suis très content de voir à quel point le niveau de détail, comme le dit Leaf, est fait. Il suffit de lire le bestiaire sérieusement pour s'en rendre compte. C'est vraiment une excellente licence, et du coup, j'ai beaucoup aimé en parler en votre compagnie.
Alors, moi, mon mot de la fin, ce sera que la série Bravely est pour moi une série qui a une double lecture. Donc, la première lecture qui est, il y a une histoire qui se passe et compagnie. Et la deuxième lecture, c'est comprendre les tenants et les aboutissants de chaque chose, qui sont, comme on l'a dit, vraiment très complexes, très ancrés dans beaucoup d'émotions, dans beaucoup de drames, dans beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que j'attends. J'ai vu que l'histoire de chaque opus se suffit à elle-même. Et à chaque fois, il y a des teasers sur des trucs qui peuvent se passer après. Donc, j'attends bien évidemment Palisade. Et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Et pour cela, bien évidemment, quand il sortira, je pense que, on se ruera pour l'acheter, et quand on l'aura bien fait, bien farmé et compagnie, c'est possible qu'on se retrouve pour refaire un podcast, pour vous parler de ce qu'on a pu voir, et on fera ça, personnellement, je ferai ça avec plaisir, parce que ça a été un énorme plaisir de pouvoir parler avec vous deux. Et sur ce, amis de Finaland, je vous dis bonne journée.